Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican.
Benoît XVI a un compte Twitter. Il est accessible depuis le 3 décembre à l'adresse @pontifex. Le pape enverra son premier tweet lors de l'audience générale du 12 décembre. Il est impensable d'imaginer un super pouvoir concentré dans les mains de quelques-uns, un pouvoir qui dominerait tous les peuples et exploiterait les plus faibles. Benoît XVI l'a rappelé en recevant les participants à l'assemblée plénière du Conseil pontifical Justice et Paix. Ce lundi, les évêques français vivaient leur dernier jour de visite ad limina. Le pape a reçu le dernier groupe venu du Midi et du Sud-Est de l'Hexagone. Vous entendrez dans ce magazine l'archevêque de Marseille, Monseigneur Pontier. Voir le handicap d'une autre manière et non pas comme un fardeau, c'est l'appel lancé par le président du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé à l'occasion de la Journée internationale des droits des personnes porteuses de handicap ce lundi. Bienvenue dans ce nouveau magazine de Radio Vatican. On le savait depuis un moment déjà, Benoît XVI aura son propre compte Twitter, @pontifex, à partir duquel il enverra un premier tweet le 12 décembre à l'occasion de la fête de Notre-Dame de Guadeloupe. Une conférence de presse avait lieu lundi matin dans la salle de presse du Saint-Siège pour expliquer le sens de cette présence papale sur Twitter. Le compte-rendu d'Olivier Bonnel.
Avec des millions de followers, Twitter est devenu un outil incontournable et l'Église ne souhaite pas passer à côté. Ce compte Twitter du pape vient ainsi montrer son désir d'entrer en dialogue avec l'homme et la femme d'aujourd'hui, où qu'ils se trouvent, comme l'a souligné Mgr Claudio Mariacelli, le président du Conseil pontifical des communications sociales. Le 12 décembre, lors de l'audience générale, Benoît XVI enverra son premier tweet depuis son compte Pontifex. Ces tweets qui seront publiés en 8 langues, des tweets pontificaux qui seront, dans un premier temps, des réponses à des questions posées sur la foi. Greg Burke est le conseiller en communication de la secrétaire d'État.
Il y a des amis qui disent oui, certainement oui, et il y a des autres qui disent non, ce n'est pas digne des papes sur Twitter. Je crois que c'est un moyen efficace pour arriver à la gens et à beaucoup de gens. C'est envoyer le message du pape, comme envoyer un SMS du téléphone. Mais après, il commence une grande conversation, je pense, dans tout le monde des nouveaux médias. Et c'est très utile pour nous. Tous les mots, les paroles sont les paroles du pape. C'est très important, les discours, les homélies, etc. Et le pape voit chaque tweet.
Mais cette présence du pape sur les réseaux sociaux peut soulever des questions. Comment réduire la pensée de Benoît XVI à 140 caractères? Que faire des multiples comptes Twitter falsifiés? Comment ne pas trop exposer le pape à des dérapages? La communication du Vatican souhaite rassurer. Le compte Pontifex est certifié et protégé contre tout piratage. Mais surtout, au-delà de l'aspect technique, c'est bien la portée de la démarche qui intéresse. Celle de partager, discuter et encourager au dialogue avec les croyants ou non. Cette présence du pape sur Twitter se veut aussi un signe pour que les croyants fassent entendre leur voix dans le monde. Comme le souligne le Conseil pontifical pour les communications sociales, Benoît XVI sur Twitter n'est que la partie émergée de l'iceberg de la présence de l'Église dans les nouvelles technologies.
Olivier Bonnel. Ce lundi matin, Benoît XVI a reçu les membres du Conseil pontifical Justice et Paix réunis en assemblée plénière. Autorité politique et juridiction universelle, c'est le thème de la 17e assemblée plénière du dicastère qui se déroule du 3 au 5 décembre à Rome. Un thème qui rappelle la note publiée par Justice et Paix en octobre 2011. Elle portait sur l'idée controversée de la création d'une autorité politique mondiale. Un thème également abordé par Benoît XVI dans son discours aux participants de l'assemblée plénière. Ce lundi, Bernard de Cotigny.
Il est impensable d'imaginer un super-pouvoir concentré dans les mains de quelques-uns, un pouvoir qui dominerait tous les peuples et exploiterait les plus faibles. Après cette réflexion, Benoît XVI délimite alors les contours du rôle de l'Église au niveau international. Elle offre, dit-il, des pistes de réflexion, des critères de jugement qui peuvent garantir un cadre éthique et anthropologique autour du concept du bien commun. Mais son devoir, précise le pape, n'est pas de suggérer, d'un point de vue juridique et politique, la configuration d'une autorité publique à compétence universelle. Benoît XVI part du principe que toute autorité déjà existante devrait être avant tout une force morale capable de raisonner et limitée à un domaine de compétences propres. Plus que l'idée d'une institution supranationale, le pape met donc en avant la création d'une culture de la fraternité, de la gratuité et de l'amour solidaire. Une culture capable de détrôner l'idolâtrie moderne, capable de se substituer à l'individualisme, au consumérisme matérialiste et à la technocratie. Benoît XVI, dans son discours, appelle les participants à l'Assemblée de Justice et Paix à se faire donc les artisans d'une nouvelle évangélisation dans le domaine social.
Bernard de Cotigny. Le pape recevait également ce lundi les responsables et séminaristes du vénérable Collège anglais de Rome. Dans son discours, Benoît XVI s'est concentré sur le thème de la foi. Il suffit de quelques personnes avec une foi solide pour faire connaître l'évangile dans le monde. Benoît XVI a fait référence à l'histoire et au pape Grégoire le Grand qui envoya Augustin de Canterbury planter les graines de la foi sur le sol anglo-saxon. Ceux qui ont vraiment rencontré le Christ sont incapables de ne pas parler de lui, a affirmé Benoît XVI. La visite ad limina de l'épiscopat français a pris fin ce lundi. Le pape a reçu les 37 évêques venus du Midi et du Sud-Est de la France. Toute la semaine dernière, ce troisième et dernier groupe d'évêques en provenance de l'Hexagone ont été reçus dans les dicastères et par le pape. En petit groupe, avant une audience commune ce vendredi, Benoît XVI avait alors souligné la responsabilité historique des écoles catholiques et leur rôle primordial dans la transmission de la foi. Le pape a d'ailleurs déploré l'ignorance du contenu de la foi, y compris chez les fidèles. Tout au long de cette visite ad limina, nous sommes allés à la rencontre des évêques français. Marie Duhamel a interrogé l'archevêque de Marseille, Mgr Georges Pontier.
Mgr Pontier, quatrième visite ad limina ici à Rome. Qu'est-ce qui a changé ?
Moi d'abord, je ne suis pas le même qu'il y a 25 ans, donc j'ai changé. Les réalités de l'Église en France ont changé, les responsables à Rome ont changé et les réalités ont fait bouger aussi Rome. Donc beaucoup de choses ont changé, ça se traduit par sûrement un climat plus humble de part et d'autre sur la manière de se situer dans les défis d'aujourd'hui, avec beaucoup plus de désir de dialoguer, de chercher ensemble, de percevoir que les solutions elles sont plutôt devant nous et que chacun de nous, nous les cherchons à partir de nos responsabilités, nous sur le terrain, et ici à partir de la vision de l'Église universelle et à partir de spécialistes finalement qui focalisent sur un point. Donc sur ce point-là, c'est intéressant de discuter avec eux, mais il y a aussi d'autres points dans la vie d'un diocèse. Donc je crois que c'est ça qui a changé peut-être, ce climat d'écoute, de dialogue, de respect, de recherche ensemble, de partage, et beaucoup moins d'évaluation ou de jugement ou de réciproque d'ailleurs, hein, réciproque sur les positions des uns et des autres. Et du coup, la connaissance des réalités françaises, de ce qui se vit dans l'Église de France, nous semble aujourd'hui mieux écoutée, mieux perçue peut-être.
Est-ce qu'il y a des questions que vous avez soulevées dans les conseils différents, conseils pontificaux, qui pour vous, d'abord, étaient une priorité, et d'autres choses qui émanaient de la curie qui vous ont marqué ?
Moi, ce qui me marque et qui a pu être exprimé, c'est le bouleversement de nos sociétés aujourd'hui, de nos sociétés occidentales en particulier, et comment nous sommes tous à la recherche d'habiter ce moment de déconstruction et de reconstruction dans les domaines essentiels que sont la famille, que sont qui est l'homme, qu'est-ce que l'homme, qui est dans le bonheur finalement, où trouve-t-on le bonheur aujourd'hui, qui est dans l'équilibre des grands domaines de la vie du monde. Je pense à l'économie, je pense à la finance, je pense à cet accroissement des migrations dans la décennie qui vient de s'écouler, et comment vivre ces réalités-là d'une manière juste, d'une manière qui dit quelque chose de la dignité de chaque être humain et de l'importance d'accueillir la richesse de chacun. Donc ça, c'était une ligne forte pour moi.
Donc,
transversale, qu'on retrouve dans beaucoup de choses. Alors, ensuite, il y a l'attitude du dialogue, je dirais, qui est ressortie assez fortement. L'importance de se situer dans le dialogue, c'est-à-dire avec des convictions et en même temps avec une écoute. Conviction et écoute qui doivent trouver finalement ensuite les mots justes et adaptés pour réussir ce dialogue, cet échange et cette reconstruction de la société d'aujourd'hui.
Monseigneur Pontier, archevêque de Marseille, interrogé par Marie Duhamel. Un entretien retrouvé sur notre site internet www.radiovaticana.va. Et puisqu'on parle des prélats français, on a appris ce lundi que le vice-doyen du Collège Cardinalis, le cardinal Roger Etchegaray, a été hospitalisé la semaine dernière à Rome, à l'hôpital catholique Gemelli. À 90 ans, il a été opéré avec succès d'une fracture du col du fémur provoquée par une chute dans son appartement. C'est déjà la troisième fois en quelques années qu'il se fracture le col du fémur. Nous lui souhaitons un prompt rétablissement. Ce lundi, on célébrait la Journée internationale des droits des personnes porteuses de handicap. Lors de l'Angélus, ce dimanche, Benoît XVI a appelé à accueillir et défendre les handicapés. Chaque personne, avec ses limites physiques et psychologiques, même graves, est toujours une valeur inestimable et doit être considérée comme telle. J'encourage, a poursuivi le pape, les communautés ecclésiales à être attentives et accueillantes envers ses frères et sœurs. Un message qui certainement ne sera pas passé inaperçu dans les maisons de l'Arche. Depuis les années 60, ces maisons accueillent des humbles, des pauvres, des malades mentaux. Elles sont présentes désormais dans le monde entier. Son fondateur, le français Jean Vanier, était à Rome le mois dernier. Xavier Sartre l'a rencontré. Il revient sur la mission de l'Arche et sur ce que les personnes handicapées peuvent nous apporter.
Notre mission est de rencontrer un monde d'extrême faiblesse, d'extrême pauvreté, d'extrême souffrance et des gens qui ont été très rejetés. Le rôle de l'Arche, c'est annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et cette bonne nouvelle, c'est pas « Dieu t'aime », c'est peut-être ça, mais moi je t'aime et tu es important pour moi. Donc c'est d'accueillir dans des petites maisons des gens qui ont beaucoup souffert, soit d'institutions, parfois dans la rue, et de leur révéler qu'ils sont quelqu'un. Vous savez qu'aimer quelqu'un, c'est simplement de lui révéler qu'il est beau, qu'il a une valeur. C'est pas d'abord faire des choses pour des gens. Bien sûr, on a besoin de professionnels qui peuvent donner des médicaments à des gens qui ont des troubles épileptiques ou psychiatriques ou d'autres. Mais la vie en commun, c'est de manger ensemble. Enfin, Jésus dit dans l'évangile de Saint-Luc que quand vous donnez un repas, n'invitez pas les membres de votre famille, vos riches voisins, vos amis, ce qui peut paraître étonnant. Mais Jésus est en train, ne reste pas dans le clan, le tribu, le groupe. Mais il dit, quand vous donnez un très bon repas, invitez les pauvres, les estropiés, les infirmes et les aveugles. Il dit que c'est une béatitude. Donc le but chez nous et dans la vision biblique, manger à la même table, c'est devenir l'ami. Donc toute l'œuvre de l'Arche, c'est de donner la possibilité d'une vie profondément humaine autour de la table, autour des fêtes, autour du travail, autour de la prière. Et au fond, je crois fondamentalement, l'Arche, c'est une œuvre de réconciliation. C'est un lieu de réconciliation. On peut se rencontrer des gens de religion et de culture très différentes. On peut se rencontrer. Et au fond, c'est ça l'Arche, rencontrer des gens très différents qui transforment la vie des personnes avec un handicap, mais aussi transforment les assistants qui viennent souvent pour faire du bien, mais ils réalisent que faire du bien, c'est rencontrer dans un esprit d'égalité et de vie, de rencontrer que nous nous aimons, et finalement ça produit la communion et la fête. L'arche est un lieu finalement de fête, où le but c'est que tout le monde soit heureux.
La dimension du témoignage paraît importante dans votre travail. Vous témoignez de votre amour du Christ auprès de ces personnes. On a beaucoup parlé de l'importance du témoignage lors du synode sur la nouvelle évangélisation. Est-ce que vous confirmez qu'en effet, témoigner, agir comme vous le faites au quotidien est une chose très importante pour transmettre la parole de l'évangile?
Nous disons tous chez nous que le fond de l'arche, c'est une relation qui transforme et qui devient signe pour le monde. Au fond, tout le mystère de l'évangile, c'est que Jésus faisait des signes. Et de signes de quoi? De signes que l'amour est plus fort que la haine, que l'amour est possible, que la rivalité, l'individualisme n'est pas le fond. Donc c'est de révéler que les personnes avec un handicap qui ne sont pas toujours accueillis dans l'Église. Même il fut un temps où beaucoup ne pouvaient pas communier. Mais peu de gens, même dans l'Église, savent que si on accueille le fou et le faible, comme saint Paul les appelle, ils confondent les intellectuels et les puissants. Et les intellectuels sont des personnes qui demeurent dans la tête. Ils n'arrivent pas à descendre dans le cœur, et le cœur, c'est une rencontre. Donc, nous voulons être un signe de l'importance de la personne avec un handicap, l'importance qu'ils ont un message à donner, mais aussi signe que tout cela, c'est l'Évangile. De fait, c'est les personnes avec un handicap qui sont les plus grands témoins de Dieu. Mais beaucoup de gens ne savent pas. Il ne s'agit pas de leur faire du bien, mais parce qu'ils sont ceux qui ont été choisis par Dieu, ils sont les grands témoins de Dieu.
Jean Vanier, le fondateur de l'Arche au micro de Xavier Sartre. Les personnes porteuses de handicap représentent l'expression du drame de la douleur. Un drame, déplore Mgr Zimowski, qui dans nos sociétés est souvent perçu comme un scandale, voire un fardeau. Dans son message pour cette journée internationale, le président du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé a appelé à voir le handicap d'une autre manière, car il est l'expression de l'unicité de chaque personne. De fortes explosions ont retenti ce lundi dans deux villes du nord du Nigeria, souvent prises pour cible par la secte islamiste Boko Haram. Ces explosions qui ont secoué Kano, la plus grande ville du nord du Nigeria, et Maïdougouri, fief de Boko Haram, ont fait au moins 4 blessés. Le week-end a été également marqué par d'autres violences du fait d'islamistes présumés. Des attaques ont une nouvelle fois violemment visé samedi et dimanche des chrétiens et des églises dans le nord du pays. 10 personnes ont été égorgées par des islamistes présumés qui sont passé de maison en maison samedi soir dans le quartier chrétien de la ville de Chibok, dans le nord du pays. Chibok se trouve à 170 km de Maïdougouri, le fief de Boko Haram. Dans le nord-est, au moins 2 policiers ont été tués dimanche dans une attaque lancée par des islamistes présumés. Ils ont incendié 3 églises et des postes frontières dans la localité de Gamboru Ngala. C'est la fin de ce magazine. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure, pour un nouveau magazine de Radio Vatican. Je vous laisse tout de suite en compagnie du musicien Yann Tiersen.